Chers frères et sœurs, fêter Jean le Baptiste, n'est-ce pas un peu exagéré? Et même célébrer le jour de sa naissance, privilège dont du reste ne jouit aucun autre saint, mis à part le Christ lui-même et la Sainte Vierge. Qui donc est celui que nous connaissons probablement surtout à cause de sa prédication au bord du Jourdain, prédication invitant avec vigueur à un baptême de conversion, prédication, ne l'oublions pas, entendue, suivie avec attention par Jésus de Nazareth, son cousin, et, atteste le quatrième évangile, son ami. Certainement, celui qui le comprend le plus. Certainement, Jésus est celui qui l'accepte le plus. Et surtout, il est celui qui, au nom de tous et pour tous, se laisse infiniment humblement baptiser par le Baptiste dans ses eaux qui sont comme l'entrée en terre promise. Qui donc est le Baptiste? Que sera cet enfant? Demandons-nous avec ceux qui, en Judée, avaient entendu parler de la grande miséricorde que le Seigneur venait d'accorder, contre toute attente, à un vieux couple privé jusqu'alors d'enfants. Miséricorde qui, certes, remplit de joie Élisabeth et Zacharie, mais en même temps déborde amplement le cadre d'une petite famille sacerdotale. De fait, cette miséricorde n'avait-elle pas été prévue depuis toute éternité? Et au moment où les temps allaient s'accomplir, n'était-elle pas annoncée par l'ange du Seigneur? Miséricorde annoncée au moment où le prêtre Zacharie, chargé d'années, chargé en même temps de supplications et de douloureuses consciences d'être sans descendance, offre l'encens. Miséricorde annoncée au moment le plus solennel de tout le ministère de ce prêtre âgé, ce moment où l'unique fois de sa vie, comme le voulait la coutume des 24 classes sacerdotales du temple, Zacharie, désigné par le sort, se met à renouveler la braise et les parfums sur l'autel de l'encens, afin que le feu du sanctuaire ne s'éteigne jamais. Miséricorde annonçant la venue au monde d'un fils, et révélant le nom que celui-ci portera à travers tout. Quel est ce nom? Il s'appellera Jean, affirme Élisabeth, sa mère, qui a retrouvé son assurance et sa fierté, usant d'ailleurs du droit le plus ancien des mères en Israël, pensons à Léa, Rachel et Anne, de donner le nom à l'enfant, ce nom que Zacharie, son mari, délivré de son incrédulité comme de son mutisme, ne peut que confirmer de son côté. Obéissant ainsi à l'ange, mais cédant en même temps la place à du neuf, savoir à un chemin qui va s'ouvrir en dehors du temple, en dehors d'une carrière sacerdotale, Zacharie, maintenant les oreilles grandes ouvertes, pour pouvoir permettre à son fils de suivre un autre chemin, un chemin balisé non plus par des rites qui enferment, mais chemin âpre, vrai et reconduisant vers la grâce du début. Or, Jean, cela veut bien dire Dieu fait grâce, Dieu accorde sa grâce, Dieu revêtit de sa grâce. Grâce certainement destinée non pas à un seul, mais destinée à rayonner, à être communiquée, communiquée à un peuple. Dieu fait grâce. N'est-ce pas comme une première et peut-être la plus profonde formulation de la future mission de l'enfant qui vient de naître? Car le nom, selon la pensée biblique, ne révèle-t-il pas l'être profond, la tendance profonde de l'être créé par Dieu, de l'être donné de toute éternité, donné et accompagné de tout l'amour de Dieu? Dès lors, l'enfant qui s'appelle Dieu donne sa grâce, ne sera-t-il pas appelé à devenir de plus en plus ce qu'indique son nom? Tout son exister dans le monde ne devra-t-il pas être consacré au Dieu qui fait grâce, appartenir au Dieu de toute miséricorde, appartenir au Seigneur qui désire faire de lui un envoyé intrépide et infatigable auprès d'un peuple et, pouvons-nous ajouter, d'un monde toujours oublieux. Dès lors, si Jean, que nous pourrions nommer le baptiseur, se retire dans le désert, n'est-ce pas pour revenir à la source de tout, devenir soif de la source, devenir soif du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soif du Dieu des vivants, du Dieu riche en grâce et en pardon? Jean n'était-il pas appelé en profondeur à devenir, à la suite du prophète Élie, l'assoiffé par excellence de la parole du seul qui est digne de susciter toute notre soif, assoiffé de la parole du seul qui, de génération en génération, et lui-même assoiffé de notre soif de sa miséricorde? La mission de Jean ne consistera-t-elle pas à crier la soif de celui dont il ne veut être que la voix, dont il veut être la voix qui crie souvent douloureusement, à temps et à contre-temps? Jean ne devait-il pas, pour répondre à son appel profond, aller jusqu'à dénoncer les duretés de cœur et toutes les formes, souvent si subtiles, de l'oppression et de l'exploitation. Ses comportements, ses attitudes qui défigurent l'être humain sans pitié et sans miséricorde. Jean aurait-il eu le droit de blanchir les forces noires de la mort? Ne désirait-il pas de tout son cœur de servir la vérité qui est amour, de servir cette vérité jusqu'au bout, acceptant à la limite même de donner sa propre vie en témoignage de la vérité, en témoignage de celui qui, en personne, est la vérité et la vie.